biodiversité, agriculture biologique, environnement, zéro déchet, développement durable. Vous souhaitez communiquer, partager vos actions, parler de vos projets sur l'antenne de Radio Alpes-Mancel 106.3 FM.
Juste pour que ça dure.
Mon Bio Écomag vous informe sur différentes initiatives et expériences en faveur de l'environnement et du développement durable sur notre territoire.
Juste pour que ça dure.
Contactez le 02 43 33 24 56, le 02 43 33 15 15.
Juste pour que ça dure.
Écoutez Radio Alpes-Mancelles sur le 106.3 FM, votre radio associative en territoire Haute-Sarthe-Alpes-Mancelles. Consultez son site internet et rejoignez-nous sur la page Facebook de Radio Alpes-Mancelles.
Aujourd'hui, nous partons direction Carneuil, dans l'Orne, à la rencontre de Virginie Dagneau, qui vient nous parler de son métier, de sa passion, de sa vie comme herboriste paysanne. Virginie, bonjour.
Oui, bonjour.
Je vous invite à commencer en vous présentant, ainsi que votre parcours jusqu'ici.
Alors, donc je suis installée comme paysanne herboriste en Suisse normande, dans le village de la Carneuille, depuis maintenant 2014. J'ai créé l'activité en 2012 et l'installation à la Carneuille en bio s'est faite en 2014. Concernant mon parcours, j'ai commencé par un parcours un peu classique, universitaire, étudiant plutôt l'archéologie, l'histoire, jusqu'au master. Et puis ensuite, j'ai fait une formation à l'Institut français d'herboristerie et également à la Société française d'ethnopharmacologie, qui m'a amené à m'installer, donc à créer l'entreprise en 2014.
Et pourquoi vous êtes-vous orientée vers cette voie? Une sensibilité peut-être dès le plus jeune âge ou pas du tout?
Oui, c'est quelque chose que je ressentais profondément. Il y avait aussi un lien à travers l'herboristerie, un lien à travers la guérison personnelle. Étant confrontée déjà depuis l'enfance, même autour de moi, à différentes problématiques, on va dire, de santé, j'ai ressenti, en tout cas j'ai été attirée par toutes ces pratiques de guérison, de médecine traditionnelle. Et c'est quelque chose, en fait, qui m'a toujours passionnée, que ce soit les médecines traditionnelles, l'ethnobotanique, les différentes pratiques spirituelles. J'ai été élevée à la campagne, j'ai été vite fascinée par le monde végétal. J'ai toujours eu beaucoup d'intuition et je me suis beaucoup toujours fiée à mon intuition. Et en fait, à la fin du master, je suis partie en Amérique du Sud pendant plusieurs mois, pendant 6 mois. Et j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux, ce qu'on appelle des curanderos, des guérisseurs traditionnels, qui ont commencé à m'enseigner et qui m'ont invité à pratiquer, à découvrir ma propre médecine. Pour eux, j'étais une ancêtre, une collègue celte. C'est vrai que c'est un peu étrange de dire comme ça. Et de fait, en rentrant de ce voyage en Amérique du Sud, j'ai commencé à étudier l'herboristerie. Pour moi, c'était ce qui ressemblait le plus à ces pratiques traditionnelles, en tout cas par rapport à notre propre culture en France. J'ai découvert qu'il y avait de nombreuses formations en France qui avaient été remises au goût du jour depuis les années 80. Et donc, je me suis formée pendant 3 années à l'herboristerie. Et aujourd'hui encore, je continue d'ailleurs à me former auprès de praticiens québécois et des peuples nations.
Mais justement, qu'entend-on aujourd'hui par le terme herboriste ou herboristerie?
Alors aujourd'hui, le métier de paysan herboriste peut être assez vaste et ça dépend de chacun. Une journée type, par exemple, ça va être prendre soin du jardin, donc cultiver les plantes, de la graine jusqu'à la récolte. Ça va être aussi beaucoup de repérage, beaucoup de botanique, notamment par rapport à la cueillette de plantes sauvages, trouver certaines plantes spécifiques, voir si on peut en trouver dans la région, sur des parcelles biologiques. Ça va être aussi la transformation de toutes ces plantes sous forme de... Donc les transformations classiques, hein, le séchage de la plante pour faire de la tisane. En fait, c'est ce qu'on appelle la préparation des formes galéniques. Ça permet de conserver la plante et d'en extraire le meilleur. On peut, moi particulièrement, j'aime beaucoup les teintures de plantes, ce qu'on appelle aussi les teintures mères, les alcoolatures. D'autres herboristes vont fabriquer de la gémothérapie, d'autres vont encore faire de la distillation, d'hydrolat, d'huile essentielle. Moi, j'ai tendance à vraiment m'attacher plutôt à la fabrication de teintures, que je trouve efficace et récente. Ça permet peu de matière à la mise en œuvre et ça permet de soulager beaucoup de personnes, en tout cas d'accompagner pas mal de personnes. La journée type d'un paysan herboriste, c'est aussi l'accueil de la clientèle et l'accompagnement de cette clientèle, que ce soit sur la bobologie ou sur des conseils, mieux dormir, soulager des douleurs articulaires, musculaires, etc., etc. Et puis, dans le métier du paysan herboriste, il y a aussi ce temps d'apprentissage qui est nécessaire tout au long de sa vie. Et c'est vrai que prendre le temps de lire un ouvrage autour des plantes, autour de la médecine, de l'anatomie, va aussi faire partie de la journée de travail. Voilà, de continuer les recherches et de toujours peaufiner, essayer d'accéder à plus de savoir, de connaissances.
Aujourd'hui, le métier d'herboriste n'est plus vraiment reconnu en France par l'obtention, en tout cas, d'un diplôme depuis le régime de Vichy. De ce fait, comment arriver à se faire une place dans notre société actuelle ?
Oui, c'est compliqué, ça demande beaucoup de foi. Vraiment avoir la foi, là, je pense que c'est un enseignement que j'ai tiré de beaucoup de chamans et de courants d'Eros ou de nos ancêtres qui nous invitaient à avoir la foi. Quand on pense que c'est juste, il faut suivre un petit peu sa voie. Et je pense que c'est juste de retrouver ces médecines anciennes et traditionnelles. Je pense qu'il y a une complémentarité à avoir entre les médecines scientifiques modernes et les médecines traditionnelles. Et qu'aujourd'hui, on tend plutôt vers un équilibre entre la science et la tradition. Prendre ce qui a marché du passé et ajouter aujourd'hui la nouveauté. Je trouve ça passionnant de savoir que nos ancêtres utilisaient telle plante pour telle et telle chose et qu'aujourd'hui, la science prouve effectivement que telle plante contient tel principe actif et va bien évidemment soigner ou soulager telle et telle douleur. Et je pense qu'il y a vraiment un travail à faire de coopération. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et que chacun apporte sa petite goutte. Et peut-être qu'on a un peu oublié l'objectif, pourquoi on est ici sur cette planète, tous. Je pense qu'on est ici pour perpétuer l'évolution, qu'elle soit dans la matière ou spirituelle. Et que pour ce faire, on a besoin de l'énergie de chacun et que chacun a sa place. Et si on le fait dans un bien-être collectif, je pense que les paysans herboristes trouveront leur place et la trouvent déjà de toute façon. L'idée, c'est de coopérer les uns avec les autres et de perpétuer cette évolution. Et comme on dit, peut-être là où le danger peut régner, c'est, il y avait un chaman qui m'avait dit, pas de science sans conscience. Et effectivement, tout développement, quel qu'il soit, que ce soit la remise au bout du jour de ces traditions premières, ou la science et les nouvelles technologies et les nouvelles médecines, c'est toujours de le faire en conscience, avec beaucoup de présence et d'amour, et de le faire pour le bien du collectif, et pas juste pour son ego personnel. Effectivement, là, il peut y avoir des dangers, on le voit déjà. Hein. Pas besoin de vous donner des exemples.
Tout à fait. En 2014, vous vous êtes installée comme paysanne herboriste dans l'ancien presbytère du village de la Carneille, et créé une herboristerie paysanne intitulée Herbe au Vent. Alors, parlez-nous un petit peu de celle-ci.
Alors, l'herboristerie paysanne Herbe au Vent, elle est basée sur un modèle assez simple. L'idée, c'était de créer une activité agricole sur un petit espace, plutôt de travailler autour d'un jardin conservatoire, donc d'avoir à disposition un maximum de plantes et de faire l'expérience de nombreuses plantes avec les années, avec le temps. Donc, chaque année, je vais intégrer de nouvelles plantes ou je vais en découvrir. Je vais davantage les étudier, davantage les travailler. Aujourd'hui, l'activité donc agricole de paysanne herboriste consiste à cueillir, donc récolter, transformer les plantes médicinales, à les vendre et à les conseiller donc à ceux qui en ont besoin. Herbe au Vent, pourquoi ? Toujours en étant un petit peu relié à cette intuition, à cette magie que la vie peut nous enseigner. Herbe au Vent, c'est le nom d'un papillon qui nous invite justement à la transformation. Comment passer de l'état de chenille à l'état de papillon ? Il y a quelque chose qui en tout cas habite beaucoup mon être à travers cette symbolique du papillon, la transformation. Et puis ce nom aussi, Herbe au Vent, vient de l'anémone pulsatile, qui est une plante très féminine aussi. Et autre chose, l'herbe au vent, ça s'est défini de manière assez symbolique. Quand j'étais en Amérique du Sud, je ne comprenais pas toujours pourquoi, mais les chamans m'appelaient Ponsarasa. Et il y a toujours des noms comme ça qui nous sont donnés dans nos initiations. Et Ponsarasa, ça veut dire papillon. Voilà. Et donc, il y a quelque chose à travers l'accompagnement dans l'herboristerie, dans la tisannerie, comment accompagner les gens vers plus de guérison et également prendre conscience de qui ils sont. On dit que pour cheminer vers la guérison, il faut déjà vaincre ses peurs et puis essayer de se rappeler qui on est, de se rappeler un peu ce qu'on pourrait appeler sa vision de naissance. Pourquoi je suis là en fait ? Qu'est-ce que je fais ici ? Qui suis-je ? Donc voilà, ça participe. En tout cas, j'aime travailler dans ce sens-là. Et je suis persuadée, je reste convaincue que chaque plante porte un enseignement, que la nature est un très bon maître. Et qu'à travers chaque plante, j'essaie d'expliquer aux gens qui viennent à la tisanerie que c'est pas un hasard que cette plante soit bénéfique pour eux, ou qu'ils l'apprécient particulièrement, ou qu'ils en aient un souvenir, ou que chaque plante, dans son approche subtile, a un message à nous communiquer. Comme les animaux dans les traditions chamaniques ont des messages pour nous aider à évoluer, à croître.
Et si on parle un petit peu de ce lieu, parce que c'est quand même assez peu commun, un presbytère?
Oui, c'est un peu un cadeau de l'univers. Ouais. Il y a quelques années, en fait, quand on a cherché un lieu pour s'installer, la mairie nous a proposé le presbytère qui était en location à l'époque pour créer la tisanerie. Et on a fini par acheter ce lieu-là il y a quelques années. Ce qui est assez anecdotique, c'est qu'effectivement, c'est un presbytère, donc il y avait déjà un jardin. Dans le champ d'énergie, il y avait déjà ce jardin médicinal qui était présent depuis très longtemps. Donc on a remis un petit peu tout en route. Oui, si on suit un peu les synchronicités, c'est vrai que c'est étonnant. La rue porte le nom du docteur René Leroy, qui a été un habitant du village de la Carneille, un habitant célèbre parce qu'il a écrit plusieurs bouquins, et c'était un passionné des médecines traditionnelles, chamaniques et celtiques. Du coup, je trouve ça assez chouette et je suis très honorée d'habiter dans la rue qui porte son nom, dans ce vieux presbytère.
Suelo y me entrego al aire que vas dejando, yo me convierto en
Donc des plantes que vous cultivez, que vous transformez et que vous vendez, mais sous quelle forme?
Alors, je les vends principalement sous forme de tisane. Il y a des tisanes toutes prêtes. Et puis, pour les gens qui viennent directement à l'herboristerie, je vais préparer des mélanges en fonction de leurs besoins. Des teintures mères de plantes et de la petite cosmétique médicinale. Surtout des petits baumes pour tout ce qui va être la bobologie ou les problèmes de peau ou des démangeaisons pour aider la circulation du sang, soulager des douleurs articulaires et musculaires. C'est des recettes assez simples, mais qui fonctionnent bien depuis qu'ils ont fait leur preuve.
Justement, parmi ces plantes, que retrouve-t-on et surtout comment et pourquoi les utilise-t-on?
Alors, on va retrouver des grandes classiques. Hein. Il y en a énormément. Là, au niveau du jardin, je dois être à peu près 130-140 plantes différentes que j'utilise actuellement. Il y a encore des nouvelles qui vont intégrer le jardin, mais que j'ai moins travaillé. Dans les grandes traditionnelles que vous connaissez sans doute, on va retrouver par exemple la feuille d'ortie, qui va être une super plante pour nettoyer l'organisme, le foie, soulager les douleurs articulaires, qui va aussi être une plante vraiment qui va aider à la reminéralisation de l'organisme. Ça fait partie des grandes classiques. Souvent, les gens sont déminéralisés. On commence par détoxifier le corps et reminéraliser l'organisme. Donc, on va pouvoir utiliser des plantes comme l'ortie, la feuille d'ortie. Dans les moins connues et des plantes vraiment intéressantes qui commencent à intégrer le jardin, on va retrouver le basilic sacré, qui est une plante indienne, qu'on appelle aussi le tulsi, et que je commence à travailler et que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que le tulsi, c'est une plante qu'on appelle adaptogène, donc elle va aider le corps à s'adapter aux différents stress. Dans nos plantes traditionnelles, sont considérées comme adaptogènes l'aubépine et le romarin, par exemple. Et dans les plantes que vous connaissez sans doute, au-delà du basilic sacré, il y a les ginseng, les ashwagandha, on va retrouver les éleutérocoques, enfin voilà, tout un tas de plantes, les ginseng sibériens et autres. Et le basilic sacré, je l'aime beaucoup parce que toutes ces plantes adaptogènes sont connues par les traditions spirituelles pour aider à éveiller l'esprit, à élargir la conscience, à prendre du recul sur la vie et donc à nous adapter. Et je trouve qu'en ces périodes de grands changements, on vit une période sur la Terre où tout est en train de changer, où ça va très vite, où ça nous demande de nous adapter. Et je trouve que c'est vraiment les plantes du moment, donc ces plantes adaptogènes, qui sont très connues actuellement par la médecine traditionnelle, même la médecine conventionnelle, on les utilise de plus en plus. Et le basilic sacré a la particularité d'apaiser et d'enlever le brouillard mental. Quand les gens sont dans des brouillards mentaux et qu'ils ont du mal à sortir de leur manière de penser ou de voir, on va pouvoir les aider à y voir plus clair, et on s'aperçoit que ces brouillards mentaux ou ces fixations d'esprit ont un impact sur le corps physique.
Des plantes que vous proposez donc sous forme de tisane simple ou composée, mais également sous forme de teinture mère. Alors, quelle est la différence entre ces deux formes, hormis la posologie, je suppose?
La différence, en fait, c'est la forme galénique, c'est le mode d'extraction. Une tisane, on va extraire avec de l'eau froide ou de l'eau chaude les principes actifs qui sont contenus dans la plante, sous forme d'infusion longue ou une décoction pour une racine. Donc, il y a un seul solvant, c'est l'eau. La teinture mère, l'alcoolature, on va extraire d'autres principes actifs. Généralement, on en extrait un petit peu plus. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser deux solvants. L'alcool, à des titres alcooliques spécifiques, fonction de ce qu'on veut extraire, et de l'eau de source. La gémothérapie, il y aura trois solvants. C'est la médecine des bourgeons. On va ajouter un corps gras, comme un sirop d'agave, comme une glycérine végétale, etc. Et en fait, il faut savoir que chaque plante a ses modes d'extraction. Parfois, certaines plantes seront plus pratiques en tisane et d'autres en teinture. Les champignons, par exemple, adorent les extractions. Ça n'empêche pas que pour les conservants, on pourra rajouter de l'alcool après une extraction aqueuse. Donc en fait, c'est aussi des manières de prendre les plantes. Pour certaines personnes, c'est plus difficile de prendre la tisane ou c'est plus compliqué sur du long terme. Ils vont préférer prendre des teintures. C'est un remède qui est facile. C'est des gouttes qu'on va diluer dans l'eau. Et souvent, le remède est un petit peu plus concentré. Voilà. Donc ça permet de proposer aux clients différentes manières de prendre les plantes. Certains herboristes pratiquent encore les pastilles ou les gélules de plantes. Ils vont réduire en poudre les plantes. Ils vont l'intégrer dans des petites gélules comme on peut trouver en pharmacie, etc., etc. En fait, les formes galéniques, elles sont assez variées. Voilà, moi, je propose celles-ci parce que je les aime bien. Je les trouve extrêmement pratiques.
Vous proposez également des séances de yoga et de méditation. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que cela peut également apporter pour soi?
Alors oui, parce que souvent, je m'aperçois que quand les gens arrivent à la tisanerie ou à l'herboristerie, ils ont tout écumé. Ils ont essayé plein de thérapies, ils ont besoin d'un petit coup de main. Et je m'aperçois souvent, le meilleur conseil que je peux leur donner, c'est commencer déjà à pratiquer la méditation. Pourquoi la méditation? Parce que c'est un temps d'intériorisation qui est nécessaire, je pense, à la croissance, à l'homéostasie, donc à l'harmonie dans le corps. C'est comme s'il y avait, on vit sur une planète où tout est polarisé, le jour, la nuit, le féminin, le masculin, le bien, le mal. Et je pense que pour être en santé, en maintenir une énergie vitale et cheminer vers plus de santé, plus de guérison, il nous faut avoir ce temps d'intériorisation, trouver le juste équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Comment je me sens à l'extérieur quand je pratique mon métier, quand je suis dans mon rôle de mère, quand je suis dans mon rôle d'amie, etc. Ça, c'est je suis à l'extérieur et comment j'agis sur l'extérieur. Mais j'ai besoin d'un temps de régénération pour être face à moi-même. Et souvent, les gens ont de la difficulté à être avec eux-mêmes. Et ça, c'est un apprentissage qu'il faut faire pour cheminer vers plus de guérison sur la planète. On a besoin de ce temps d'intériorisation, de méditation. Et j'aime particulièrement la pratique du yoga parce qu'elle va inclure ce temps lié à l'esprit, cette méditation intérieure, mais également au corps. Comment je remets aussi mon corps en mouvement, comment j'y garde de la souplesse, comment je fais circuler les énergies à l'intérieur de moi. Et donc, en effet, oui, depuis une dizaine d'années, je propose des cours de yoga, que ce soit la clientèle de la tisanerie ou aux locaux. Et je propose des cours tous les lundis, lundi matin, lundi soir. Et ensuite, dans l'année, je propose des séances spécifiques autour de ce qu'on appelle le voyage intérieur ou le Nidra Yoga, qui va nous aider à conscientiser certaines problématiques, certains blocages que l'on peut avoir. Voilà, c'est de l'accompagnement, en fait, vers plus de guérison, plus de bien-être. Et je trouve que cette pratique est fondamentale. Et je sais que moi, elle m'a beaucoup aidée. Dès l'âge de 17 ans, j'ai commencé à méditer. J'ai eu l'opportunité de voyager en Inde plusieurs fois. J'avais tendance à être toujours très mélancolique ou être un peu dépressive. J'arrivais pas à comprendre ce que je faisais ici. J'arrivais pas à trouver la joie, en fait. Je voyais que certaines personnes l'avaient. Et j'arrivais pas à comprendre ce qui fonctionnait pas chez moi. Et le yoga a vraiment été une révélation et m'a permis, et me permet encore aujourd'hui, d'aller vers plus de potentiel, de découvrir mon potentiel, de prendre confiance, d'expérimenter mon chemin de vie, en fait, plus aisément. Même si, voilà, je chemine encore et que j'ai encore plein de choses à découvrir et c'est parfois les lignes russes. Mais en tout cas, ça me permet de maintenir une stabilité dans mon énergie et d'être plus en paix avec moi-même et avec le monde qui m'entoure, d'avoir plus confiance.
Enfin, vous proposez des ateliers, stages et formations à la pratique d'herboristerie. Alors, en quoi cela consiste-t-il et sous quel format les proposez-vous?
Alors, il y a plusieurs ateliers. Ça dépend des années, ça dépend de l'inspiration du moment. Au niveau du format, ça va d'une demi-journée à 2 jours. Il y a des choses qui vont tourner vraiment autour de l'herboristerie traditionnelle pour acquérir plus d'autonomie, plus de confiance, oser cueillir certaines plantes dans son jardin, oser se préparer une tisane, etc., etc., et accompagner un petit peu son entourage. Et puis, il y a des stages plus spécifiques, plus initiatiques autour des pratiques de l'herboristerie et des pratiques traditionnelles en ethnobotanique, qu'on pourrait aussi appeler pratiques chamaniques, mais c'est pas forcément le terme, il y a différentes pratiques du monde entier. Et puis, il va aussi y avoir des formations, des stages entre plantes et yoga, qui sont plus des retraites spirituelles. Voilà. Et tous ces stages, donc là, j'en ai en octobre cette année, mais tous les autres prendront à partir plutôt de l'été prochain, du printemps prochain, parce que je suis actuellement sur un nouveau projet. Je suis en train de restaurer donc une vieille grange qui se trouve dans le jardin du presbytère. Et cette grange va réunir les différents outils et va permettre de créer un lieu ressource, une officine dédiée aux plantes médicinales. Un lieu où moi j'aurai également mon labo de transformation avec le séchoir. Et puis, un lieu dédié à la médecine des plantes, au partage des savoirs, avec la bibliothèque, il y aura tout un cycle de conférences et d'ateliers sur l'année. Où je ne serai pas la seule intervenante, je ferai venir d'autres herboristes, ethnobotanistes, passionnés des végétaux, des arbres, etc. Voilà. Ça, c'est un petit peu le nouveau projet qui est en cours. Donc, voilà, on a commencé les travaux, ça va durer quelques mois. Voilà, d'ailleurs, pour participer à ce magnifique projet d'officine à la campagne en Suisse normande, vous pouvez nous filer un petit coup de main, en tout cas filer un petit coup de main au projet, en vous rendant sur le site internet mimosa.com, donc mimosa avec 2 i. C'est une plateforme de financement participative qui aide au développement des projets agricoles. Donc vous cliquez mimosa.com, vous tapez herbe au vent, une herboristerie à la campagne, une herboristerie paysanne à la campagne, et vous trouverez le projet. Voilà, il reste quelques jours si vous voulez nous aider. Tous les petits euros récoltés sont les bienvenus. Ça permettra d'avancer le projet. Voilà, il y a des fenêtres à poser, il y a des enduits à faire en chambre. Ça permet d'acheter le matériel dont on a besoin, enfin dont j'ai besoin, pour mener à bien ce projet Dauphine à la campagne et de lieux ressources autour des plantes. Voilà, parce qu'actuellement, l'atelier est dans le presbytère, dans une pièce du presbytère, et je suis pas toujours très visible et c'est pas toujours très pratique. Voilà.
Et aujourd'hui, avez-vous d'autres projets ou d'autres dates à retenir concernant l'actualité de Herbes au Vent ?
Non, pas beaucoup de dates à retenir. Je vais essayer de me concentrer vraiment, de maintenir la vision de ce lieu. C'est important pour moi. J'ai d'autres projets, mais qui viendront plus tard, dans un an ou deux. Donc voilà, j'essaie de faire les choses, chaque chose en leur temps. Après, il y a des projets avec lesquels je participe, comme le CPIE, où j'interviens là, au mois de septembre sur des projets d'autonomie autour des plantes médicinales. Il y aura un projet qu'on est en train de mettre en place, mais on attend des retours, qui va s'appeler le chapeau plante, qu'on va faire avec d'autres membres du collectif Pam Pam, qui est un collectif qu'on a créé il y a 10 ans pour le renouveau du métier de paysan herboriste, et pour qui travaille autour du partage des savoirs et la collecte des savoirs autour des plantes. Donc ça, on vous donnera la programmation au fur et à mesure. Ce sera des conférences semi-gesticulées autour des plantes médicinales, des conférences participatives. Voilà, assez militante. Mais voilà, dans l'actualité, je reste concentrée sur la création de cette herboristerie paysanne qui va me demander quand même pas mal de boulot, et tout en continuons la gestion des récoltes, des cueillettes, de l'accueil clientèle. Et deux enfants en bas âge aussi, donc ça fait pas mal de boulot, c'est déjà pas mal.
Oui, effectivement. Pour nos auditeurs qui souhaiteraient d'amples informations vous concernant, vous et vos produits, je vous invite également à nous donner vos contacts.
Alors, c'est très simple, vous pouvez retrouver tous les contacts de la tisannerie sur le site internet herbeauvent.com, tout simplement. Voilà, c'est le plus simple. Vous aurez mon numéro de téléphone, mon adresse mail. Vous pouvez avoir un petit peu un aperçu des produits que je fabrique et que je vends. Et puis, sinon, je suis ouverte toute la semaine, du lundi au samedi midi, sur rendez-vous, pour accueillir donc les gens qui en ont besoin.
Madame Dagneau, je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour intervenir sur notre antenne et j'espère vous recevoir à nouveau très bientôt.
Eh bien, merci à vous d'avoir fait, de m'avoir proposé ce temps d'antenne et de vous intéresser à la dynamique des paysans herboristes, parce que je pense que on est de plus en plus nombreux en France et je pense que également le projet Dauphine à la campagne va semer des graines et qu'on verra naître en Normandie et ailleurs en France plein de petites officines dédiées à la médecine des plantes.
Tout à fait. Bah, je vous remercie en tout cas et puis je vous souhaite une bonne continuation.
Eh bien, merci beaucoup. Belle journée.
Merci. Au revoir.
Au revoir.